Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info. Ah,
bah, je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, contre le volet et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est un mille infos.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout. Paniquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bah oui, c'est vendredi, il est 19h02, on est vachement moins en retard que d'habitude. Et donc c'est les infos du vendredi sur Radio Canu au 102.2 FM. Et de quoi qu'on va vous parler ce soir?
Et bah ce soir, on va d'abord vous parler de féminisme, puisqu'il y a une journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles demain.
Et puis bah de santé handicap, on vous parlera du Duodet, une saloperie validiste, j'allais dire féministe, mais non, pas du tout, une pas vraie saloperie tout. Validiste de merde.
Absolument pas féministe. Voilà. Et le Duodet, c'est national, et dans la rubrique nationale, on continuera avec le travail qui sera autorisé 7 jours sur 7 pendant les Jeux Olympiques.
Et puis, quelques années après, la bagnole de keuf qui avait cramé à Vitry-Châtillon vous donnera des nouvelles de Fouette qui a passé 4 ans et demi en tôle pour que dalle.
Et puis, de Vitry-Châtillon, on partira à Roubaix où on utilise des drones et puis des murs pour empêcher la contestation d'un projet de rénovation urbaine.
Et puis, bah, les murs, ça peut servir à faire des logements et ça, c'est super. Mais évidemment, il y a un référé qui est passé pour l'abrogation du décret marchand de sommeil. On vous en parlera.
Absolument. Ensuite, on passera à l'international où on vous parlera des élections présidentielles en Argentine. Et on va dire que le résultat n'est pas très satisfaisant, voire même très, très inquiétant.
Voilà. Heureusement, il y a encore des personnes qui se mobilisent et on vous racontera un peu des grèves massives qui ont lieu dans le secteur public et ça, c'est au Québec.
Absolument. Et on continuera avec les animaux puisque les rats rigolent. Sachez-le, les rats s'amusent pas mal.
Et puis, bah, comme toutes les semaines, vous aurez le petit agenda pour savoir quoi faire ce week-end et la semaine prochaine. Et évidemment, la rubrique ACAB, où vous pourrez nous appeler. Je distingue le numéro 04 78
39 18 15.
Yes.
N'hésitez pas. Voilà, bonne écoute sur Radio Canu.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible et disponible, libre.
Actu féministe.
Les femmes fières et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Et voilà, vous le savez certainement déjà, demain 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences de genre, les violences sexistes et sexuelles. Alors du coup, pour ça, on va vous lire une tribune qui a été écrite à cette occasion. Ce sont 220 000 femmes victimes de violences de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année et des centaines de milliers d'enfants co-victimes de ces violences. Plus de 100 associations et collectifs militants appellent à une manifestation le 25 novembre 2023 contre les violences de genre. Ils et elles appellent à les rejoindre pour créer un mouvement de masse. À nos sœurs et familles assassinées, nous ne vous oublierons jamais. Nous, organisations féministes, afroféministes, transféministes, LGBTQIA+, antiracistes, antivalidistes et antigrossophobie, appelons à manifester le 25 novembre 2023 dans toute la France à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Nous ne voulons plus compter nos mortes. Les femmes et les minorités de genre subissent au quotidien des violences sexistes et sexuelles. Au travail, dans la rue, dans le foyer, dans les services de santé, nous sommes harcelés, insultés, exploités, discriminés, violés, tués. 850 femmes ont été assassinées sous les mandatures d'Emmanuel Macron. Ce sont 850 féminicides, dont 75% dans le couple, et plus de 1000 enfants ainsi rendus orphelins. Ce sont 220 000 femmes victimes des violences de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année et des centaines de milliers d'enfants co-victimes de ces violences. Ce sont 250 viols ou tentatives de viol chaque jour et une justice qui refuse toujours de croire la parole des victimes. Le 25 novembre, nous serons dans la rue pour rappeler qu'en 2023, être une femme, et d'autant plus une femme noire, racisée, trans, non valide ou une personne LGBTQIA+, c'est vivre en étant partout exposée aux violences. Nous serons dans la rue pour rappeler que les enfants sont les premières victimes des violences sexuelles et qu'ils et elles ne sont pas protégés. Tous les jours, 450 enfants sont victimes de violences sexuelles. La moitié des enfants victimes d'inceste ne sont pas pris en charge lorsqu'elles appellent à l'aide. Les enfants parlent, mais elles ne sont pas écoutées. Leur parole est remise en cause. Nous serons dans la rue pour dénoncer l'absence sidérante de politiques publiques pour lutter efficacement contre les violences faites à toutes les femmes, aux enfants et aux minorités de genre. La réduction drastique des financements des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences montre que la « grande cause » entre guillemets est une imposture. Les associations féministes et afroféministes de terrain abandonnées par l'État ne peuvent plus accompagner les victimes dans de bonnes conditions. Certaines sont contraintes à mettre la clé sous la porte. Ces violences de genre s'inscrivent dans un contexte social et politique d'inégalité, d'injustice et de racisme. Nous ne pouvons pas fuir un père, un conjoint, un employeur, un système violent si notre survie matérielle n'est pas assurée. Nous nous mobilisons pour l'émancipation de toutes, en particulier pour celles des plus précaires d'entre nous. Le 25 novembre, nous serons dans la rue pour dénoncer les violences sociales et policières orchestrées par Emmanuel Macron, son gouvernement, le patronat, l'ensemble de la classe politique. Nous refusons la perte de nos acquis sociaux, la casse de nos services publics et de notre protection sociale. Les récentes réformes des retraites, du chômage et du RSA nous pénalisent particulièrement, car nous menons des carrières hachées, des emplois sous-payés. Les métiers féminisés, notamment ceux du soin, sont les plus dévalorisés, les plus précarisés et les plus pénibles. Ils sont majoritairement assurés par des femmes noires et ou racisées. L'explosion des loyers et l'inflation accentuent encore notre précarité. Les expulsions locatives et le mal logement touchent en majorité les femmes seules avec enfants, les femmes et les minorités de genre. 45% des mères isolées et 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Au moins 2000 enfants et leurs familles dorment dans la rue en France aujourd'hui. Le mouvement social contre la réforme des retraites, le plus massif que la France a connu depuis 50 ans, nous confirme que c'est par la grève que nous allons gagner le rapport de force, pouvoir gagner le rapport de force. Le gouvernement ne se cantonne pas à l'inaction face aux violences basées sur le genre. Il les génère et les accentue par son application de politiques répressives. Traque et humiliation des adolescentes musulmanes dans leurs établissements scolaires, discrimination et meurtre par la police des populations noires et racisées dans les quartiers populaires et en outre-mer, pénalisation des clients, des travailleuses du sexe, chasse aux usagers et usagères de drogue, expulsion des migrants et migrantes et exilés. C'est le même État qui réquisitionne les grévistes, qui réprime les mouvements sociaux et les écologistes et qui tente de mettre fin à nos luttes. Nous ne nous tairons pas. Dès demain, organisons-nous dans nos quartiers, sur nos lieux de travail et d'études pour construire un monde libéré de l'exploitation, des oppressions et de discrimination. Nous appelons les associations, les organisations politiques, syndicats et toute la société à nous rejoindre pour un mouvement de masse. Soyons nombreux et nombreuses le samedi 25 novembre 2023. Du coup, vous l'aurez compris, il y a effectivement une manifestation et qui sera aussi à Lyon. Le rendez-vous, il est à 14h Place Bellecour. Il y aura un cortège de tête en mixité choisie, sans mec 6. Et on peut aussi profiter de cette tribune et de cette journée, parce qu'il y a un chiffre qui est sorti là aujourd'hui, et c'est la première fois a priori qu'il est diffusé, c'est qu'il y aurait 910 keufs depuis 2021 qui seraient auteurs de violences conjugales. Alors le problème, c'est que moi, si on me donne ce chiffre, j'aime pas les flics, je me dis c'est sûrement beaucoup, mais en vrai, c'est pas trop mal de faire le calcul pour se rendre compte un peu que évidemment il y a des mecs cis agresseurs partout et beaucoup, et y compris dans les milieux de gauche. Par ailleurs, il y a quand même beaucoup beaucoup de keufs dans tout ça, parce que finalement, si on considère qu'il y a un auteur par victime, ce qui est grossi, mais par ailleurs il y a aussi le nombre de victimes qui est très très amoindri, qu'on rapporte le nombre de keufs à la population générale, etc. En gros, pour vous dire qu'il y a 0,3% de la population qui est flic. Et en fait, il y a deux fois plus, c'est rapporté, les flics sont deux fois plus agresseurs que la population générale. Donc, bizarrement, quand on est habitué à taper des gens dans les manifs, dans les quartiers, que notre aïe, c'est la répression, c'est évidemment taper sur des femmes et des minorités de genre, c'est fastoche. Et par ailleurs, c'est d'autant plus inquiétant quand on se dit que ce sont ces personnes-là qui sont en charge de prendre les plaintes et qui sont, a priori, aujourd'hui, le seul moyen de faire valoir la justice de l'État, en tout cas, et de se dire qu'on a quand même deux fois plus de chances de tomber sur un agresseur, enfin sur un auteur de violence conjugale quand on va au Comico, et ben ça fait pleurer.
Canu Info du vendredi. Rubrique santé, handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, on ne peut pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact, proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Et ce soir, on voulait vous parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine. C'était la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'était l'occasion d'organiser des débats entre spécialistes, mais pas trop avec les personnes concernées, et surtout de faire de la communication, en effet, de l'État aux collectivités territoriales, en passant par les boîtes privées. Tout le monde s'est poussé du col pour se féliciter de la manière dont on fait bosser les handicapés. On a notamment vu pas mal de politiciens et politiciennes de tous bords, du gouvernement à la France insoumise, faire de la publicité des ESAT. Donc, les ESAT, ce sont ces associations qui font marner les handicapés payés au lance-pierre. Des handis pas assez productifs pour bosser dans le secteur dit ordinaire, mais bien assez productifs pour se faire exploiter pourtant. Parce qu'en ESAT, les travailleurs ne sont pas salariés, ils sont usagers, comme on est usagers d'un autre service public. Il n'y a pas de contremaître, il y a des animateurs. Et puis en vertu de quoi, les usagers et usagères des ESAT bossent pour 6 euros de l'heure, ne cotisent pas pour le chômage, ni pour la retraite, n'ont pas le droit de grève, ni celui de se syndiquer, ou encore d'envoyer leurs employeurs au prud'homme, etc., etc. Les ESAT font partie de l'ensemble des institutions ségrégatives dans lesquelles on traite les handicapés comme une partie subalterne de la population sans aucun droit. Et puis il n'y a pas que les militants et militantes antivalides qui disent que les ESAT c'est pourri, puisque l'ONU demande à la France de les fermer depuis des années. Mais comme on l'a vu cette semaine, à part les personnes qui bossent dedans et quelques militants militantes, bah, ça n'émeut quand même pas grand monde l'existence de ces ESAT. On vous signale au passage un chouette doc avec un travailleur en ESAT qui dénonce tout ça de l'intérieur dans la dernière émission de Municipal Cousu, une émission de Radio Canu, que vous pouvez retrouver sur vos plateformes de podcast favoris. Alors les ESAT, les médias traditionnels, en font la pub toute l'année, mais la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées comprend aussi une belle saloperie qui, de prime abord, pourrait sembler sympathique. Ça s'appelle le Duodet. Alors le principe est le suivant selon le site officiel. Je lis donc cette définition. L'opération Duodet consiste pour une entreprise, une collectivité ou une association à accueillir une personne en situation de handicap pour former un duo avec un professionnel de la structure volontaire. Le Duodet permet aux employeurs de découvrir les atouts et qualités professionnelles de personnes en situation de handicap, c'est beau, hein, tout en offrant l'opportunité à ces dernières de découvrir un environnement de travail et de lutter contre les préjugés. On va voir que ça lutte à fond contre les préjugés. Le Duodet est organisé conjointement par le ministère de la Solidarité et des Familles, qui est en charge du handicap en France, par les ARS, donc les agences régionales de santé, et par l'ALGE. L-A-I-C-E-E-I. C'est l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion. Donc c'est un truc schématiquement qui gère des trucs médico-sociaux type ESAT où ils exploitent, ou en tout cas ils ségrèguent des personnes handicapées. L'opération de com est bien rodée, par exemple, alors que c'était hier, hein, le duo Day, c'était hier le 23 novembre, on sait déjà que 27 613 duos, c'est précis, ont été enregistrés sur la plateforme, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à 2022. Alors hier, sur les réseaux sociaux, on a vu fleurir les selfies avec des handicapés sympas et souriants, hein, d'un peu n'importe qui, des élus, des ministres, et puis des kidam de n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle structure publique, avec parfois des commentaires sur leur courage, le fait qu'ils et elles seraient des leçons de vie, hein, c'est le terme qu'on utilise parfois, ou des imbécilités du genre « qu'est-ce qu'ils sont courageux, résilients et joyeux ?» Littéralement, durant le duo day, chacun ou chacune balade son handicapé du jour ou sa handicapée du jour, de bureau en bureau ou de réunion en réunion. Les handicapés y sont réduits à jouer le rôle de Pokémon à collectionner et à exhiber. Alors le tout doit permettre de changer le regard sur le handicap et est même présenté comme un tremplin pour l'emploi. Le site officiel revendique le fait qu'en 2022, 23% des candidats ont eu une opportunité d'emploi à la suite de l'édition du duo day. D'après les personnes qui bossent un peu sur le sujet, ce serait en fait dans une écrasante majorité de cas des stages courts et non rémunérés, mais qu'à cela ne tienne, la communication ne s'embête pas trop avec la réalité. Des initiatives telles que le duo day n'ont pas de réel impact sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. Hein. Elles ne vont pas du jour au lendemain trouver un travail dans le secteur ordinaire et les employeurs ne vont pas du tout se mettre à engager des personnes en situation de handicap. Hein. On rappelle qu'en France, en théorie, toutes les entreprises doivent embaucher au moins 6% de personnes handicapées. Et pourtant, on en est bien loin. La plupart des entreprises préfèrent payer des amendes que d'embaucher des handicapés. Le duo day, c'est surtout l'occasion pour les entreprises de renforcer leur communication vers l'extérieur en se montrant comme une entreprise inclusive, en démontrant les valeurs de partage, d'ouverture, de diversité, etc. Plein de jolis mots un peu creux. Après la photo trophée postée sur les réseaux sociaux, la personne handicapée, elle retourne chez elle avec parfois de faux espoirs qu'on lui a donnés grâce à cette journée. Et puis quand l'excitation de la journée est redescendue, le risque c'est peut-être de plonger dans une déprime après avoir réalisé que finalement en fait rien n'a changé avec ce jour-là et que la personne n'aura peut-être jamais accès au job qu'elle a pu découvrir. Alors par la grande médiatisation et l'engouement pour ce programme, hein, parce que quand même 27 000 duos c'est quand même beaucoup, le duo day contribue à occulter les besoins et les combats réels des personnes handicapées, hein, relatifs ces combats essentiellement à la qualité de vie, aux droits dans les domaines de l'accessibilité, de l'éducation, du logement, un petit peu partout où les personnes handicapées sont fortement discriminés, et justement dans l'emploi. Médiatiser et se féliciter d'une seule journée où des entreprises accueillent une personne handicapée ne contribue en rien aux actions de fond attendues, qui doivent être beaucoup plus importantes et portées sur le long terme. La priorité, hein, évidemment, ça doit être celle de la défense des droits et pas celle de faire des jolis selfies et de la bonne communication. Et puis dans le duo day, il y a un vieux fond de validisme et d'infantilisation. Ça se manifeste particulièrement dans la com avec l'utilisation constante du prénom de la personne handicapée, hein, Colette, Michel ou Lucas, et puis parfois même dans l'utilisation du nom binôme, copain, et puis jamais sans mentionner le nom, la formation, l'origine de la personne. Les valides présentent finalement leur personne handicapée comme un être, voire parfois même comme un objet fragile, infantilisé, ou à l'inverse parfois hein, comme un héros, hein, c'est l'éternelle double figure du handicapé, soit misérabiliste, soit héroïsante. Et ces stagiaires d'un jour ne font que suivre et observer le travail de personne valide sans rien à la clé. Comme lors de ton stage de collège en fait, sauf qu'on parle d'adultes qui sont souvent formés par ailleurs pour effectuer ou occuper certaines positions dans le monde professionnel. Alors pour les personnes valides, le duo day c'est une expérience inédite, fun, exotique, une bonne action pleine de charité chrétienne et de mise en scène de soi qui ne fait que renforcer l'essentialisation des personnes en situation de handicap. Hein, on tend à oublier leur humanité et la complexité de leurs identités. Hein, le handicap ça veut pas dire grand chose comme grande catégorie générale. Et puis enfin, même l'expression « changer de regard sur le handicap » est quand même profondément vomitive. Hein. Sous des apparences bienveillantes et ouvertes à la différence, son usage répété est devenu une espèce de running gag dont on se passerait bien. Regardez, les handicapés ne sont pas seulement tristes et chiants, ils savent accomplir des choses, c'est chouette, on va changer de regard. Alors vous pouvez bien regarder les handicapés sous tous les angles que vous voulez, hein, avec une loupe ou avec un objectif grand angle, le handicap sera toujours le même et les difficultés seront toujours dues avant tout à la non-adéquation de la société aux besoins des personnes. Comme l'écrivent le collectif anti-validisme Les Dévalideuses, quant à nous, on a déjà essayé de regarder une entrée d'immeuble non accessible d'un œil joyeux et positif, elle ne s'est pas magiquement transformée en rampe d'accès. Et oui, dire qu'il faut changer le regard sur le handicap, handicap, cela sous-entend qu'il n'y a pas de problème structurel et que la majorité des problèmes viennent de l'absence de sensibilisation du public aux questions du handicap. De fait, une fois de plus, hein, on individualise le problème du validisme et on le dépolitise. Mais après tout, à quoi d'autre fallait-il s'attendre de la part du gouvernement et, et d'associations gestionnaires de tôles pour handicapés ?
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Révolution ! Révolution ! Révolution !
Balancer des pavés dans la gueule des Jeux Olympiques, c'est un peu une passion au Canu Info, mais on n'a toujours pas de jingle spécifique. Alors bon, retour quand même de notre rubrique, malgré cette absence de jingle, ça viendra peut-être. Le gouvernement a encore publié une belle saleté aujourd'hui, puisque ce vendredi 24 novembre est paru au journal officiel un décret qui permet de suspendre le repos hebdomadaire dans les entreprises qui participent à la diffusion ou à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Et ce, sur une période de près d'un mois, donc ce sera tout l'été prochain, pendant en gros les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et selon le comité d'organisation des Jeux Olympiques, plusieurs milliers de personnes seraient concernées. La dérogation exceptionnelle n'est valable que du 18 juillet au 14 août, ce qui fait quand même long, et les Jeux ayant lieu pour leur part du 26 juillet au 11 août, donc c'est, on voit un petit peu plus long. Le décret précise qu'un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée à l'article 1er, donc ils pourront récupérer leur dimanche après, ouais, la chance. Hein. Et l'article de loi qui prévoit cette possibilité de suspension du repos précise que le repos hebdomadaire ne peut être suspendu plus de deux fois par mois. Alors, c'est tant bien, ça dure un mois, donc ça ferait quand même de faire sauter au moins deux dimanches pour ces personnes. Plusieurs secteurs d'activité vont faire face à une activité soutenue et continue pendant les Jeux Olympiques, et notamment les médias. Libération précise ainsi, ça va vous intéresser, que les Jeux Olympiques occuperont la totalité du temps d'antenne de France 2 et France 3, laissant seulement la place à deux choses, les JT d'information, mais écoutez plutôt le Canu Info, et les émissions religieuses du pain et des jeux et de la religion. Ça va être vraiment très très chouette cet été sur France Télévisions.
Et par ailleurs, au-delà du fait de faire travailler, c'est aussi assez intéressant de voir les zones, parce que c'est assez flou de dire oui, c'est les gens concernés, etc. Et en fait, quand on regarde l'étendue des zones et le fait qu'effectivement, il y a des petits bouts de surf à Tahiti et compagnie, en vrai, ça concerne un nombre de salariés complètement délirant, parce que les zones géographiques concernées sont absolument gigantesques.
Oui, c'est comme l'autorisation de travail du dimanche, c'est une quinzaine de sites et dont toutes les communes limitrophes. Donc par exemple, Lyon et toutes les communes limitrophes, donc 1,3 million de personnes ici pour... Alors ça ne concerne pas le travail du dimanche, la suppression le fait de pouvoir bosser 7 jours sur 7, c'est-à-dire que c'est pas la même chose que l'autorisation de travailler le dimanche, même si ça revient souvent au même. Ça concerne que des professions spécialisées, mais bon, c'est une saloperie de plus au compte des Jeux Olympiques.
Pardon. On vous parlait de travail, et puis on va vous parler d'une personne qui a pas pu travailler pendant 4 ans et demi. Vous vous rappelez, il y a 5 ans maintenant, la bagnole de keuf qui avait cramé à Vitry-Châtillon, qui surveillait, on peut se rappeler quand même, c'était une bagnole de keuf qui avait été mise là pour surveiller une caméra de surveillance qui se faisait dégrader régulièrement. Et vous vous en rappelez ou pas, mais il y a tout un tas de personnes qui avaient été arrêtées et qui ont été mises en taule sur les déclarations des flics, et qui ont été, même l'État a été obligé de valider qu'en gros, ils ont pécho n'importe qui, ils le savaient, il y a des enregistrements qui le montrent, et ils ont chopé les premiers gonzes qu'ils ont trouvés pour déclarer qu'ils étaient coupables. On vous laisse deviner où est-ce qu'ils sont allés les chercher, c'était pas dans les beaux quartiers. Voilà, et du coup, cette histoire, c'était un peu il y a longtemps pour nous, mais quand même, en fait, il y a encore des choses qui se passent. Ça veut dire que, il y a des gens qui ont été incarcérés pour rien. Ça a duré, là, on va vous parler de Foued, ça a duré 4 ans et demi. Hein. Le mec a passé 4 ans et demi en zonze pour quelque chose qu'il n'avait pas fait sur la base de fausses déclarations d'agents de l'État. Il est quand même important de le rappeler. Et du coup, au bout d'un moment, il a demandé des indemnités à l'État. Donc, on va spoiler tout de suite. 4 ans et demi de tôle pour un jeune, donc il a été incarcéré de ses 18 à 22 ans, la justice a considéré que ça valait 185 000 euros, c'est-à-dire à peine plus que le patrimoine médian des Français. Voilà. Donc voilà, c'est le montant du préjudice moral et matériel, hein, c'est la somme des deux pour dédommager Fouette qui a été détenu à Fleury-Mérogis de ses 18 à 22 ans alors qu'il était innocent. Évidemment, au rendu de la décision, ça donne cette impression à Fouette, qui n'est pas qu'une impression, que c'est dérisoire, c'est même rabaissant, et c'est comme ça que la justice considère sa vie. Et après avoir été violenté par les DEC pendant l'arrestation, après avoir été traîné devant un tribunal sur des fausses accusations, après avoir été incarcéré pendant des années, une nouvelle violence, une nouvelle injustice, une nouvelle humiliation de la part de l'appareil d'État pour celui qui n'était qu'un gamin finalement à 18 ans quand les DEC l'ont ramassé en décidant que c'est lui qui porterait le chapeau. Voilà. Donc voilà, comme on l'a dit, les policiers chargés de l'enquête avaient falsifié les déclarations de plusieurs innocents, dont Fouette. Et à ça, en fait, la justice est assez extraordinaire. Donc la juge a dit qu'elle n'avait pas pris connaissance du fond du dossier et qu'en vrai, le fait que ce soit des flics qui aient falsifié le truc pour l'envoyer en taule, finalement, ça ne compte pas. C'est pas dans la décision de justice, ça n'a pas d'importance. Et en gros, la justice, elle calcule sur un truc très réglementaire, j'allais dire. Voilà, il y a un nombre de jours passés en taule, on vous expliquera un peu après comment c'est calculé exactement, mais les conditions dans lesquelles le type a été incarcéré pour rien et le fait que ce soit l'État qui ait menti, enfin ses agents qui aient menti pour le faire incarcérer, n'a aucune espèce d'influence.
C'est super.
C'est extraordinaire. Donc on peut quand même raconter, puisque les tôles, ça fait un moment qu'on vous le dit, c'est vraiment de la merde. Fouette, il souffre aujourd'hui de pathologie dermatologique irréversible provoquée par 4 ans de carence alimentaire et de manque d'hygiène, hein, parce que les douches, c'est pas tous les jours en tôle. Par ailleurs, il y a un médecin qui a attesté d'un état de stress post-traumatique avec des troubles anxieux spécifiques et des conduites d'évitement imputables à l'incarcération dont il a fait l'objet. En gros, il a du mal à gérer ses émotions, il oublie vite ce qu'il doit faire dans l'immédiat, il a du mal, des difficultés de concentration, ce qui fait qu'il a du mal à garder un taf, évidemment. Je vous laisse deviner, ses parents sont malheureusement dans une situation précaire. Et par ailleurs, son père a contracté un cancer juste avant son incarcération, et ce sont, comme dit Fouette, la prison m'a tué, moi, mon père, il a le cancer, j'ai raté des années avec lui irrattrapables qui ne sont pas chiffrables. Ça, c'est ce qu'il a dit à la juge, il lui a dit il faut payer, elle lui a répondu 185 000 balles. Voilà, donc pour vous expliquer un peu, donc ils ont pris, en gros, ils prennent les trois premières semaines de détention. Alors il y a quand même ce truc qui comprennent le choc carcéral, entre guillemets, donc c'est quand on vous remet dans une prison la première fois, quand même, il y a ce petit truc qui dit, ah oui, c'est dramatique. C'est dur, hein. Du coup, il y a trois semaines où c'est un peu mieux, donc c'est une rémunération qui est de l'ordre de 290 à 300 balles par jour. Pour le reste de la détention, on est sur 60 à 70 balles par jour d'indemnisation.
On ramène ça à l'heure, c'est quand même dérisoire.
C'est dérisoire, pour se faire mal traité quotidiennement et être enfermé en plus. Pour Fouette, ses avocats, ils avaient évalué le préjudice moral à environ 700 000 euros. Donc l'État, lui, il a déclaré que ça valait à peu près 130 000 balles. Parce que du coup, ils n'ont pas trouvé la preuve suffisante pour la dureté des conditions de détention. En fait, ça s'appelle juste la prison. Ils n'ont pas reconnu les diverses pathologies contractées par Fouette, en niant également leur caractère permanent, donc indemnisable, pardon. Ensuite, il y a aussi la question de, en fait, le gamin, il avait 18 ans, il s'est retrouvé en tôle, et en fait ça a niqué sa vie, parce qu'à 18 ans c'est quand même des périodes un peu charnières de la vie où on commence soit une formation, soit un job, etc., etc. Ça, ils n'en avaient pas grand chose à péter. Voilà, donc en gros c'est pareil, c'est calculé en fonction du salaire sur le préjudice matériel. Donc ils ont regardé le fait que le gars avait pas de salaire, et oui, il a 18 piges, en fait il avait pas de taf, ce qui arrive quand même à une immense majorité de gens à 18 ans, ou alors qui bossent au McDo et se font exploiter pour pouvoir payer leurs études, en tout cas. Et du coup, ce qui signifie quand même que du coup l'indemnité journalière du préjudice matériel, la plus morale, est en gros, plus t'es riche, plus on t'indemnise, évidemment. Donc finalement, quand tu vas en taule et que t'es riche, c'est quand même plus agréable. En tout cas, t'es mieux indemnisé si jamais l'État venait à reconnaître sa faute que dans l'autre sens. Donc pour le préjudice matériel, on parle d'un type donc, qui venait d'avoir le bac, qui venait d'obtenir donc il a pas pu finir sa scolarité et obtenir son BTS. Il a touché 15 000 balles. Alors lui, il parlait de son projet de devenir agent immobilier, etc. Ce à quoi le procureur général a estimé que la perte de chance était quand même assez hypothétique compte tenu de sa scolarité chaotique malgré ses facilités intellectuelles. Ils sont allés jusqu'à éplucher ses relevés scolaires pour pas lui lâcher un peu de thunes en plus, en disant en gros c'était pas un assez bon élève, donc il mérite pas grand chose. Voilà, donc face à tout ça, on a un jeune en fait qui a sa vie toute niquée, qui a passé 4 ans en tôle, qui a raté du temps avec son père qui va probablement décéder bientôt, qui a du coup avait envie de faire des études, avait envie de trouver un taf, ça lui appartenait et on lui a enlevé cette possibilité. Il se retrouve dans la merde, à pas pouvoir bosser en gros à cause de ce qu'il a contracté et de son temps passé en tôle, et l'État a considéré qu'on va lui lâcher 180 000 balles, que ce sera bien suffisant.
Et c'est super, on a pu parler un petit peu à travers cette histoire lamentable de la répression qui s'exerce dans les quartiers populaires. On va voir ce qui se passe à Roubaix. Alors c'est l'histoire à Roubaix, c'est une lutte qui elle-même fait bégayer un petit peu l'histoire. Dans les années 80, les habitants et habitantes de l'Almagar à Roubaix se sont battus contre un projet de rénovation urbaine. Et à l'époque, ils ont notamment gagné le droit de proposer et de voir se réaliser un contre-projet pensé avec et par elles et eux. Les habitants, c'est quand même assez rare pour que ça se passe. C'est une belle victoire contre la rénovation urbaine. Sauf que les pelleteuses, elles attendent quelques années et elles reviennent. Et donc 40 ans plus tard, les pelleteuses sont de retour. La lutte aussi. Ça fait des mois maintenant que le quartier le plus pauvre de Roubaix se mobilise, on en a déjà parlé dans le Canu Info, contre un projet à nouveau de rénovation urbaine qui doit péter le projet qui avait été construit dans les années 80 et qui a pour but, évidemment, comme tous les projets de rénovation urbaine, à la fois de démolir pour construire, mais surtout, évidemment, d'éparpiller la population dans d'autres quartiers avant de la remplacer par des personnes plus aisées. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. La lutte réunit largement et rencontre un écho assez fort. Elle prend la forme de réunions collectives, de manifestations et aussi de sabotage des chantiers qui ont essayé de débuter. Et c'est ça qui a le plus déplu au maire et à la police du coin, qui ont déployé des solutions assez inédites dans un projet de rénovation urbaine pour combattre cette résistance. Depuis quelques semaines, les chantiers sont en effet surveillés par des drones, ce qui quand même fait une utilisation supplémentaire de ces saloperies qu'on voit surgir de plus en plus en manif, etc. On les envoie aussi surveiller des chantiers parce que c'est vraiment très important. Et plus surprenant encore, lundi, les habitants et habitantes de l'Alma se sont réveillés en découvrant des murs construits pour protéger les chantiers plutôt que les habituelles palissades en métal qu'on voit souvent sur les chantiers. Donc il faut imaginer, vous pouvez peut-être aller trouver des images, mais il faut imaginer un alignement de blocs de béton qui font 2,60 m par 2 m et ça fait une espèce de mur assez infranchissable qui condamne même une ruelle au milieu des immeubles à détruire. Les habitants et habitantes comparent ce mur à ce qu'on voit à Gaza ou ce qu'on voit à la frontière États-Unis-Mexique. Alors toute proportion gardée, ça rappelle comme sacrément un autre mur qui avait été érigé il y a quelques années dans le cadre d'un projet de rénovation. C'était à la Plaine à Marseille et c'était tout autant une honte. Soutien total aux gens qui se battent contre la rénovation urbaine partout et en particulier à l'Almagar.
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La même question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Alors réduire la misère qui agresse la planète entière, c'est pas vraiment le plan du gouvernement, notamment puisque il y a eu un décret qui est passé en juillet. Alors décret qu'on pourrait qualifier de décret marchand de sommeil, mais qui en fait son vrai nom c'est décret relatif aux règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation. Il fixe de nouvelles normes déterminant la salubrité des locaux d'habitation et les procédures d'insalubrité. Il y a des jolis noms sur ce décret, puisqu'il est signé notamment par Elisabeth Borne, Rousseau, donc Aurélien Rousseau, qui est le ministre de la Santé, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, encore un mis en examen, et Christophe Béchu, lui, c'est l'écologie des territoires. On note notamment la présence de la santé des territoires, et on va en reparler. Alors, des nouvelles normes constituent une régression majeure en matière de protection de la santé des habitants, puisque, en fait, depuis 1978, il y avait une norme qui disait qu'il était interdit, donc ça fait 45 ans, 78, je fais les calculs pour vous, qu'il était interdit de louer, par exemple, des logements avec des pièces de vie ou des pièces principales, séjour ou chambre, situées en sous-sol, ou encore faisant moins de 2,20 m sous plafond. Il était interdit aussi de louer des logements sans vue horizontale avec minimum 2 mètres de dégagement sur l'extérieur. Vous n'êtes pas censé avoir un vis-à-vis à moins de 2 mètres. Déjà 2 mètres, c'est pas large hein, quand même quand on y pense. Il était, c'est pas dire pour dire que ces normes étaient géniales, hein. Il était interdit de louer aussi des logements avec des pièces de vie sans ouvrant, sans aucune fenêtre, donnant à l'air libre pour une aération naturelle. Et puis il était aussi interdit de louer des logements dont là où les pièces de vie mesurent moins de 2 mètres de large. Alors tout ce que je viens de dire qui était interdit, bah, c'est moins interdit maintenant. Considéré comme dangereux pour la santé physique et psychologique des occupants, le non-respect des règles de salubrité conduit en fait normalement à un arrêté d'insalubrité du préfet ordonnant la suspension de paiement du loyer et, si le local est impropre à l'habitation, au relogement des occupants et occupantes aux frais du bailleur. Ce dernier peut être poursuivi pour délit de marchand de sommaire, voire même exproprié. Et parfois ça arrive, c'est assez rare mais ça arrive. Et donc le décret du 29 juillet 2023 permet depuis le 1er octobre, ça fait un mois, de louer un logement en sous-sol. Un logement de 2,19 m, 1,80 m sous plafond, ils ont baissé de 40 cm la norme. Alors 1,80 m, c'est vraiment pas haut.
Tu passes pas. C'est... Moi, par exemple, je passe pas et je suis. Enfin, ouais. Tous vos potes un peu grands, ouais. ils passent pas.
Non, et puis si vous êtes un peu large non plus, ça passe pas non plus, puisqu'il est aussi interdit, enfin non, autorisé, pardon, désormais de louer des logements couloirs de moins de 2 mètres de large, aucun problème. Un logement sans vue horizontale, autorisé aussi, donc sans vue horizontale sur l'extérieur, hein, avec un vis-à-vis de moins de 2 mètres. Une pièce sans autre ventilation que la porte ouverte, alors vous pouvez avoir une pièce sans fenêtre, c'est possible de louer un logement sans fenêtre. Il faut juste qu'il y ait éventuellement une VMC qui vous permette quand même d'avoir un peu d'air, c'est quand même vraiment sympa. Alors la rédaction de ce truc est en plus particulièrement flou, ce qui permet des interprétations multiples, hein, une fois de plus, favorables aux propriétaires vautours. Je rappelle ici que les termes vautours et propriétaires sont assez strictement synonymes. Et en fait, ce décret ne prend compte ni le réchauffement climatique, qui tue chaque été des personnes vulnérables assignées dans des logements fournaises, ni l'évolution des normes de confort depuis 45 ans, et c'est un gros retour en arrière. Hein. Ainsi, il permet que la salle d'eau et les toilettes soient communes, à 30 mètres de distance, et donc dans un autre bâtiment, par exemple. Enfin, il permet beaucoup de choses. Ce décret légalise des logements de nombreux marchands de sommeil, des logements qui sont aujourd'hui non louables légalement. Il va probablement aussi lancer la course à l'aménagement des caves et des logements couloirs, puisque c'est possible. Bas de plafond, des combles de même nature, hein, tout un tas de trucs qui font moins d'1,80 m, etc., vont pouvoir être aménagés. Sans autres ouvertures sur l'extérieur que des vatistases, donc c'est les fenêtres de toit, une porte ou encore des fenêtres qui n'ont pas d'ouvrant. C'est aussi possible de faire ça, désormais des fenêtres qui n'ouvrent pas. Enfin bref, on voit bien ce que ça ouvre comme possibilité. C'est peut-être comme ça qu'on va résoudre. Il paraît qu'il y a une crise du logement, alors on n'a qu'à faire habiter les gens dans des caves et des endroits insalubres. Et à l'heure où le gouvernement annonce une proposition de loi pour accélérer l'expropriation d'îlots insalubres, donc c'est un petit peu contradictoire, faciliter le relogement des occupants, mais aussi soutenir la spéculation immobilière en zone tendue, ce décret rend en fait le projet de loi totalement inefficace. C'est un peu débile. Enfin bon, bref, on voit bien quand même la logique qu'il y a derrière. C'est pourquoi... deux associations, la Fédération Droit au Logement et les Mal Logés, organisent une série d'initiatives. Il y a eu une manif qui a eu lieu mardi à Paris devant le Conseil d'État. Il y a une campagne d'information qui va être lancée, qui doit toucher les locataires de logements insalubres. Et surtout, on espère que ça fonctionnera, il y a un référé qui est adressé au Conseil d'État pour la suspension de ce décret affreux qui revient en arrière. Et l'audience, c'est lundi 27 novembre, la semaine prochaine, à Paris. Il y a à nouveau un appel à rassemblement, si vous êtes, c'est au niveau du Palais Royal. Et on espère pouvoir vous donner des nouvelles rapidement et qu'elles soient peut-être positives. Rêvons.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et bah ouais, la rubrique internationale, on va vous parler, c'est pas si souvent, mais on va vous parler d'Argentine. Alors désolé déjà pour mon accent, on va vous parler de Javier Milei, qui a été élu président de l'Argentine dimanche dernier. C'est malheureusement une nouvelle déjà évidemment triste, mais surtout très très inquiétante, parce que ce type-là, pour vous donner un peu un portrait du personnage, c'est un grand pote d'un certain Donald Trump et d'un autre qui s'appellerait Jair Bolsonaro. Vous voyez un peu le genre d'énergumène. Mais peut-être même est-il pire, ce type-là. Donc, en tout cas, c'est une espèce d'ultra-libéral qui a fait une campagne complètement dégueu où, il a une vision de l'État, finalement, qui est l'aboutissement du néolibéralisme complet. Ça veut dire que l'État ne s'occupe de rien, si ce n'est des decks pour foutre les gens au boulot et à la soumission d'une façon plus générale.
Mais pas que, ça s'occupe aussi des femmes, par exemple, pour interdire l'avortement.
Oui, évidemment. Et de la morale, on y reviendra, mais voilà, c'est une espèce, en fait, on dit ultra-libéral, mais c'est un néolibéral,
c'est néolibéral
pur,
c'est,
ouais. Voilà, c'est que les néolibéraux, encore aujourd'hui, même Macron, vont pas jusqu'au bout, et malheureusement, ça a été possible en Argentine avec la victoire de ce type-là. Donc, il a fait toute sa campagne en luttant, donc, vous savez, c'est les candidats anti-système d'extrême droite, hein, on peut le rappeler tout de suite, c'est un type d'extrême droite, donc contre la caste. C'est la même chose que les establishments ou l'oligarchie, enfin tous ces termes que les fachos vous répètent à longueur de journée en ne précisant jamais qu'ils font évidemment partie des ennemis qu'ils pointent du doigt. Comment ça a été possible, ça, au-delà effectivement de dérives qui s'observent au niveau mondial? On peut quand même préciser qu'il y a un niveau de pauvreté sans précédent, avec plus de 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté en Argentine, et une inflation qui a pu atteindre les 640% sur un an. Du coup, un fiasco quand même du gouvernement précédent, et des conditions de vie absolument dramatiques pour les personnes vivant en Argentine. Et puis, il y a aussi tout ce truc de médias, de sondages, vous savez, tous ces trucs à chaque élection avec des grands sachants qui font des pronostics, ces personnes qui nous ont pronostiqué que Trump ne serait jamais élu. Là, par exemple, il était absolument impossible que ce gars-là soit élu. Le problème, c'est qu'aussi, à force de dire que c'est pas possible, ça finit par le devenir et plus personne. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui en ont peut-être moins peur et qui finissent par voter pour. Et effectivement, c'est dans ce courant-là aussi que Javier Milei a pu être élu. Par ailleurs, c'est un type, c'est d'autant plus inquiétant, c'est qu'à la différence de Trump, qui était quand même un membre des Républicains, du coup, qui a quand même un parti derrière, et quand il fait alors trop de la merde, bon, je sais pas tellement jusqu'où c'est pour les Républicains, mais en tout cas, il y a en tout cas quelque chose un peu pour mettre des limites, aussi dégueu soit-elle, ça existe. Lui, en fait, il est tout seul, il a son parti un peu à la Macron, quoi. Et du coup, non seulement, évidemment, c'est un connard, mais en plus, il n'y a pas beaucoup de trucs pour le retenir dans son propre camp, puisque son propre camp, c'est lui, et c'est un peu le culte de la personnalité. Ah non, pardon, il bosse aussi avec sa sœur cadette, Katrina, qu'il surnomme au masculin, elle. Alors, je vais pas essayer... le chef, ou encore le messie. On verra après que la question religieuse n'est pas complètement loin de tout ça. Bon, alors espérons que du coup il aura du mal, avec cette absence de parti quand même, à réunir une majorité à la Chambre des députés, mais pour l'instant rien n'a été voté. Donc ce type-là, on peut vous donner quand même quelques propositions. Alors la première, on n'est pas spécialiste de l'économie, peut-être faudra vous renseigner ailleurs, mais en tout cas, il propose de supprimer la monnaie argentine pour faire du dollar américain la monnaie officielle du pays, et par là même supprimer la banque centrale. Alors il y a de nombreux économistes, dont les économistes atterrés, qui disent peut-être un peu moins de la merde que d'autres le plus souvent, qui disent que c'est absolument catastrophique, et en fait ça soumettrait complètement son pays au bon vouloir des États-Unis, qui du coup auraient la main sur la monnaie. Mais ça, c'était presque le truc. C'est que par ailleurs, ce type-là, il est évidemment, comme toute personne d'extrême droite, il est pour le port d'armes tout à fait libre, etc. Il s'est positionné assez fermement contre le droit à l'avortement, et nul doute qu'il ira au bout de ses idées, et que le droit à l'avortement va être plus que fortement attaqué en Argentine dans les mois ou les années qui viennent. Et d'autres idées, il souhaite libéraliser les ventes d'organes. Alors ça, c'est un peu sur les mesures phares, mais dans les mesures un peu plus politiques, toujours dans cette idée que, alors l'État, on ne va pas le défendre ici, mais par ailleurs, quand c'est à la place de l'extrême droite, et malgré tout, ça fait des droits. Lui, il veut supprimer les ministères de l'Environnement et de l'Éducation, privatiser les médias publics et les compagnies énergétiques. Il a donc dit, tout ce qui peut être remis aux mains du privé sera remis aux mains du privé. Alors on peut quand même noter, il a voulu, dans ses promesses de campagne, il voulait complètement privatiser l'éducation. Heureusement, on ne sait pas bien pourquoi, mais il est revenu sur ce truc-là, donc il n'y aura plus de ministère, mais peut-être il y aura encore de l'éducation. Après, ça c'est aussi un truc de néolibéral, c'est qu'il faut former gratuitement les travailleurs et les travailleuses pour qu'ils puissent bosser pour les patrons. Bref. Pour conclure un peu le tableau extrêmement inquiétant de cet abruti, il assume une forme de mysticisme et du coup il emploie quand même dans un certain nombre de phrases la banque centrale c'est le malin avec des analogies assez délicates. Le socialisme aurait été inventé par le diable, mais surtout accrochez-vous, il a déclaré communiquer assez souvent avec Dieu et expliquer que Dieu est un libertarien. On peut quand même effectivement préciser, j'ai oublié de le dire, qu'il se décrit lui comme anarcho-capitalisme, si tant est que ça voudrait dire quelque chose. Libéral libertarien, ça par contre on voit plus le sujet. Absolument. Voilà, vas-y. Il communique régulièrement avec Dieu à travers son chien qu'il a par ailleurs cloné 6 fois à sa mort. Donc il a 6 clones de son yinche qui ont été faits aux États-Unis. Alors c'est un peu de l'anecdote et à la fois ça donne quand même une idée de sa ce qui peut se passer dans sa tête à ce monsieur d'être en lien constant avec Dieu et de cette ivresse de pouvoir. Et malheureusement, en tant que président, il a maintenant accès à tout ça. J'espère qu'il ne pourra rien faire et qu'on n'aura pas à en reparler dans les infos, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas.
Absolument. Et tout de suite, on reste sur le continent américain, mais on remonte un peu au nord, on part au Québec.
Et des petites nouvelles du Québec où quand même il y avait une énorme mobilisation ces derniers jours parce que le Québec, le secteur public, était en grève depuis le 21 novembre. Donc ça incluait les services de santé, les services sociaux, système scolaire. Et hier, le 23, c'était 560 000 personnes à peu près qui étaient en grève et même dans la rue, dans toute la province, selon les médias télé. Donc dans toutes ces personnes, il y avait tous les sympathisants, etc., mais les syndicats et aussi des enseignants, des infirmières, etc., représentés par les syndicats comme le Front commun, mais aussi la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, avec 80 000 personnels de santé, infirmières, personnels administratifs, etc., qui étaient en grève, qui étaient sur les piquets de grève aussi, qui ont réduit le service dans certaines unités tout en gardant les services essentiels. Il y avait aussi la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui représente 60 000 enseignants et enseignantes dans les grandes villes de Québec, comme Montréal, Québec, Outaouais, les Laurentides, l'Estrie, la Montérégie. Et tout ça représente à peu près 40% des enseignants et enseignantes. Donc elles et eux, pareil, ils étaient sur des piquets de grève devant les écoles, devant les cégeps. Les cégeps, c'est devant les universités aussi, mais les cégeps, je crois que ça correspond à peu près au bac plus 2 en France, quelque chose comme ça. Peut-être des IUT ou je sais pas bien l'équivalent. En tout cas, il y avait aussi des suspensions de cours pour durée indéterminée dans les services scolaires qui étaient représentés par cette fédération autonome. Et le retour en classe ne se fera, selon leurs propos, que si le syndicat conclut une entente de principe ou constate des avancées significatives à la table des négociations. Donc eux, elles et eux sont toujours en grève illimitée à ce jour. Et pourquoi est-ce que tout ce monde se mobilise ? Eh bien, pour dénoncer des conditions de travail complètement dégradées et parce qu'il y a une nouvelle convention collective qui est sur le point d'être signée. Je crois que ça fait quelques temps. Pour régir notamment les salaires, les conditions de travail. Les personnes dénoncent des conditions toujours pire en pire pendant que les gouvernements, eux, demandent une flexibilité. La flexibilité, une flexibilité des agents et des agentes, quoi. Mais en fait, les personnes, elles demandent une hausse de salaire qui corresponde à l'inflation. dénonce que apparemment le service public au Québec serait beaucoup moins bien loti que le service public niveau national, enfin de tout le Québec, de tout le Canada pardon, qui serait beaucoup moins bien payé que leurs homologues dans le Canada anglophone. Voilà, ils dénoncent des classes plus de monde dans les classes, par exemple pour le système éducatif, qu'ils demandent qu'on ouvre des classes spécialisées, qu'on valorise les heures supplémentaires, mais que par ailleurs on embauche du monde plutôt que justement trop valoriser juste les heures sup, etc. etc. Donc à creuser davantage, parce que moi j'ai cherché un peu et j'ai pas tout bien compris à cette nouvelle convention collective. En tout cas, il y a un sacré paquet de monde qui est dans la rue et qui n'est pas content et qui veut autre chose. Donc affaire à suivre, on leur souhaite une bonne grève. Avez-vous déjà regardé des vidéos de rats sur internet? Car c'est extrêmement mignon. Notamment des rats qui jouent à cache-cache. Et aussi des rats qui se font chatouiller et en fait ils rigolent très fort. Alors on les entend pas rire parce qu'ils rigolent à une fréquence que l'oreille humaine ne peut pas capter. Mais il y a des chercheurs qui ont montré que les rats rigolaient. Alors évidemment, ça a été montré certainement en tuant ces rats et en ouvrant leur cerveau pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau neuro, etc. Donc il y a tout ce questionnement éthique sur l'expérimentation animale. En tout cas, une découverte qui est quand même assez folle, c'est ça. Et donc on pouvait chercher sur YouTube, il y a des vidéos en fait où on apprend à des rats à jouer à cache-cache. Et en fait, il y a tous les chercheurs en fait qui ont voulu savoir aussi si est-ce que ces rats ils jouaient à cache-cache parce que ça leur faisait plaisir ou est-ce que c'était pour les récompenses. Et a priori, je suis pas sûre qu'on puisse conclure vraiment fortement, mais en tout cas, il y avait des indices qui semblaient indiquer que c'était vraiment pour s'amuser parce qu'il y avait ils observaient des bonds de joie quand les rats ils trouvaient les partenaires humains ou humaines. Ou alors ils avaient une tendance à prolonger le jeu et du coup par exemple en découvrant un endroit où la personne était cachée et en fait quand ils étaient sur le point d'être découverts, les rats filaient ailleurs en fait pour se cacher ailleurs comme pour prolonger en fait le jeu, comme pour faire durer le plaisir, mais ça on sait pas si c'est vraiment ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos, c'est très très mignon et voilà, affaire à suivre pour vous montrer que les rats sont des petites créatures très intelligentes avec plein de choses surprenantes à nous apprendre.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et oui, quoi faire ce week-end, cette semaine? Peut-être comme les rats, vous allez jouer à cache-cache avec vos potes et bien vous amuser. En tout cas, il y a plein d'autres trucs à faire. On voulait commencer cet agenda en apportant notre soutien. Il y avait un spectacle qui était organisé au Rock and Hit la semaine dernière, qui avait reçu de nombreuses menaces de la part des FAF, et effectivement avec l'attaque de la Maison des Passages en début de semaine, les organisateurs sont pas souhaité maintenir parce qu'ils ne se sentaient pas capables de garantir la sécurité du public et des artistes, et on les comprend, et par ailleurs on leur apporte leur soutien, et c'est vraiment triste d'en arriver à des moments où on annule des événements culturels parce que les FAF sont les promener tranquillement dehors. Voilà. Le samedi 25 novembre, ça c'est pas plus tard que demain, on vous en parlait, il y a la manifestation pour la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ça c'est rendez-vous 14h, c'est jusqu'à 18h, place Bellecour. Et alors ça tombe à pic, parce que comme vous serez place Bellecour, ça va se superposer avec un rassemblement pour demander un cessez-le-feu halto-génocide solidaire du peuple palestinien, un cessez-le-feu à Gaza. Donc c'est à partir de 17h, donc ça va se recouper jusqu'à 19h, mais en tout cas vous serez place Bellecour, vous pourrez rester. À 19h, vous pourrez enchaîner tout de suite. Et mince, je ne sais pas où c'est. Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a des rencontres militantes le 25, donc comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Après la manifestation, c'est organisé par le collectif Droits des Femmes 69, les Superféministes. C'est à Villeurbanne et aller sur Rébellion, ça, sans nul doute, l'adresse est notée. Nous, on a loupé. Le lundi 27, il y a la causerie du lundi. Cette fois, c'est aux clameurs, évidemment. Et cette fois, ce sera chômeurs, vos papiers, contrôler les chômeurs pour réduire le chômage, point d'interrogation, avec Luc Cigalo-Santos et Jean-Marie Pilon, c'est à 19h. Le mercredi 29, il y a un arpentage, c'est à La Griffe, c'est à 18h30, Penser l'écologie sociale de Murray Bookchin, j'imagine.
Bookchin, absolument.
Bookchin. Et à La Maladière, la conférence gesticulée, j'aurais dû m'appeler Aïcha, et ça, c'est à 20h. Et il paraît que vendredi, à 19h, il y a le Canu Info de vendredi, mais peut-être on ne va pas s'auto-annoncer
c'est
chaque
semaine.
C'est
probablement la meilleure émission de la semaine. Absolument. Et tout de suite, comme chaque semaine, on va essayer de se poser une question.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu.
Allô ?
Canu Info du vendredi.
Je crois qu'on a un appel. On a un appel. Vous nous entendez ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ? On nous a appelé. C'est.
Oui, je m'entends en double.
Tu t'entends en double.
Éteignez votre radio.
Ah oui, il faut peut-être éteindre ta radio comme ça.
Ah oui.
Tu pourras avoir un peu moins de l'arsène.
C'est bon, c'est éteint.
Et est-ce que tu sais ce que voudrait dire ACAB ?
Oui. Par contre, c'est un ACAB phonétique parce qu'ils n'avaient pas de C.
Ok.
Alors du coup, c'est avec le Québec en grève, attaquons le béton de Roubaix.
Ah, le Québec avec un C.
Absolument.
Voilà, Québec avec un C, mais voilà.
Okay. Fantastique.
Avec le Québec en grève, attaquons le béton de Roubaix. C'est une super explication pour ACAB. Vive le Québec libre. Vive le quartier de l'Almagar libre. Oui, on est lyrique ce soir sur Radio Canu. Est-ce que tu veux passer un autre message ? Ah, c'est la libre antenne, on est comme des fous. Hein.
Léa,
ah, bon, bah, ça marche plus.
Ah, nous on t'entend en tout cas.
Bonne soirée, bonne émission, enfin
merci
bonne beaucoup. Noise pollution, tout ça.
Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
Ciao.
Et on est toujours à l'antenne sur Radio Canu, les appels fonctionnent, on a même ce petit bruit de téléphone. Pourquoi a-t-on le bruit alors que ça a raccroché ?
Je crois que c'est pour rappeler que toutes les semaines, vous pouvez nous appeler au 04 78 34... C'est 12 le dernier.
04 78 39 18 15. 30, vous pouvez nous appeler évidemment pour nous dire ce que veut dire ACAB si vous savez, parce qu'on cherche toujours. Un jour, peut-être aurons-nous la vérité. Et puis évidemment, si vous avez des informations, si vous voulez nous confier des infos en live, n'hésitez pas. Peut-être qu'on a fini ce soir.
Bah, il me semble. Hein. C'est. Eh ben oui, 57, finalement, vous allez avoir 3 minutes de demande continue. Et puis, une émission de quoi déjà ? Je crois que c'est un talk, ils font que parler, il n'y a pas de
musique.
Ouais,
c'est une émission de air guitar. voilà. Donc, l'émission de air guitar qui s'appelle Noise Pollution arrive tout de suite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, paniquez pas, niquez tout.